up and going into the living. And this was always more or less the center of the house. Times, see, there's the old Watts Dictionary of Chemistry and abstracts and whatnot over there. And when Father was looking for something, why, he would want us to look through all the references to it. So we get these.
Il habite le puissant que le gouvernement. Il habite le gouvernement. Il habite le gouvernement. Il habite le gouvernement.
Ébloui par toutes les richesses du nouveau continent, une foule d'aventuriers venait chercher fortune et gloire.
Le plus célèbre. Et oui, on est tous ici à 70%. On est en train de s'installer en studio pendant qu'on va vous laisser au bon soin de Philippe Noiret, qui bien sûr fait la traduction en français des fabuleuses cités d'or, les aventures merveilleuses, fabuleuses et fantastiques. Enfin, là, je vais trouver d'autres synonymes et puis on vous revient.
Il avait entendu les légendes qui parlaient d'une fabuleuse ville d'or et il attendait impatiemment une occasion de partir pour le Nouveau Monde. Il s'embarque avec une équipe composée d'hommes sans scrupules, parmi lesquels le capitaine Balboa, explorateur du Pacifique. Il arrive sur le nouveau continent, réputé pour être une grande puissance à cette époque. Il débarque avec 180 soldats, des chevaux et des armes à feu, alors que son adversaire possède plusieurs dizaines de milliers de soldats robustes. Pas question de les attaquer de front. Il choisit donc de tenter de prendre l'empereur Atahualpa en otage, pensant que les Incas privés de leur chef seraient démoralisés et donc faciles à battre. Mais le nombre des Incas effraie les Espagnols. Seul Pissarro garde son sang-froid. Il encourage ses soldats pris de panique et met en fuite l'armée impériale, elle-même terrorisée par les armes à feu et par les chevaux. Il capture l'empereur Atahualpa. L'empereur, prisonnier de Pissarro, lui montre le mur de la salle où il est séquestré et lui promet de remplir cette salle d'or jusqu'à la hauteur de sa main levée, à condition que Pissarro l'épargne.
Et oui, l'histoire qu'on est en train d'entendre, c'est la plus grosse rançon qui n'a jamais été payée pour la vie d'un être humain de toute l'histoire de l'humanité. Là, ce que je vais faire, c'est partir notre belle toune thème et aller expliquer à nos nombreux invités comment que la machine fonctionne. On va écouter Simon se laisser aller.
C'est
sans bon sens.
Je donne le minimum. Je sens comme un vrai homme. Vive comme un pomme. Au maximum. 70%.
Donc, Simon, moi aujourd'hui, je vais parler de deux jeux vidéo.
C'est surtout Simon. Simon, il est bon. C'est lui le patron. Simon, Simon, Simon.
Les deux
Simon.
Jeux desquels je vais parler.
Oh oui,
c'est,
moi.
Mario
Simon.
Sunshine et puis Resident Evil 4.
Simon Saumon. C'est moi le poisson. 70%. 70%.
Ok, je vais allumer le micro, tout le monde.
70%. 70%. 70%.
Oh yes, ça c'est du solide. Pareil, Simon, t'étais vraiment déchaîné cette fois-là, en tout cas.
Oui, absolument. J'aime mieux ne pas m'en rappeler, mais je m'en rappelle à chaque fois que je viens ici.
Bon, à tous les lundis soirs.
Oui, et ce lundi soir-ci, nous avons le professeur Roger Cambou avec nous. Bonjour Roger, ça va bien?
Oui, ça va bien.
Bonjour.
Pascal Lambert va nous faire une chronique sexe, comme à l'habitude.
Ben oui.
Monsieur Spencer, citoyen américain qui a émigré au Canada, qui va nous expliquer les pourquoi de ce mouvement de son corps vers le Canada. Et Michel,
oui,
qui va s'entretenir de foot avec moi, le reste, et surtout M. Nkambou, qui est amateur de soccer, n'est-ce pas?
Oui, on peut dire ça.
Quand même. Bon, alors...
on est prêt pour la première chanson de la journée?
Tout de suite, puis on revient avec une entrevue.
C'est le gars qui a inventé le rock and roll cette fois-ci. C'est celui qu'Elvis a copié. Oui, oui. Bill Haley et ses comètes.
Good.
One little, two little, three little Indians, four little, five little, six little Indians, seven little, eight little, nine little Indians, ten little Indian boys.
John Brown had a little Indian, John Brown had a little Indian, John Brown had a little Indian, one little Indian boy. Said one little, two little, three little Indians, four little, five little, six little Indians, seven little, eight little, nine little Indians, ten little Indian boys.
One little, two little, three little Indians, four little, five little, six little Indians, seven little, eight little. Six little Indians, seven little, eight little, nine little Indians, ten little Indian boys.
Achèterait imagination s'adresser à Mademoiselle de la Cigogne. Mais pourquoi Mademoiselle de la Cigogne veut-elle acheter de l'imagination?
Ma pauvre Tosca, je vous admire.
Comme c'est gentil.
Mais à votre place, j'aurais honte.
Pourquoi?
On n'a pas idée de porter sa maison sur le dos.
C'est pratique.
Mais vous avez passé l'âge de faire du camping, ma fille.
Ça m'est égal. En tout cas, lorsque je voyage, je n'ai pas à chercher d'hôtel.
Oh, des phrases pleines de sagesse. C'était tiré du petit écho de la forêt. Une affaire pour enfants qui existait dans le temps, là, c'était des bouts de papier qui étaient découpés en forme d'animaux.
J'ai jamais connu ça, moi.
Ben, toi, t'es toute jeune.
Ben, quand même.
Bonjour tout le monde. On est à 70%, Monsieur Roger Nkambou, qui va être interviewé par notre intervieweur vedette.
Oui, M. Nkambou est titulaire d'un doctorat en informatique de l'Université de Montréal, obtenu en 1996. Oui. Vous avez tout d'abord été chercheur postdoctoral à l'UQAM.
Oui.
Et vous avez travaillé parallèlement comme chargé de cours à l'UQAM, 1996-1997. Vous avez été attaché au département de mathématiques et informatique.
Informatique à l'époque, oui.
Oui, à Moncton. Vous avez enseigné à Sherbrooke également, à l'Université de Sherbrooke.
Oui, pendant deux ans.
OK. Mm-hmm. Et présentement, c'est ça, vous travaillez sur des projets de développement d'intelligence artificielle.
Oui, en fait, c'est ça. Donc, l'intelligence artificielle, c'est mon domaine de recherche, en fait.
OK.
Et puis, ce que j'ai fait, c'est que je développe des applications, en fait, qui utilisent les techniques de l'intelligence artificielle.
OK. Ouais. Grosso modo, à quoi peuvent ressembler ces techniques-là? Comment est-ce qu'on essaie de rendre un ordinateur intelligent?
Bon, c'est ça, justement, la question, c'est justement la notion de l'intelligence elle-même, hein, qui, bon... Il y a des gens qui vont dire que c'est quelque chose qui se manifeste à travers l'activité de l'homme, mais il y a des gens qui vont dire que ça se passe beaucoup plus dans la tête et tout. Donc il y a vraiment deux tendances, en fait, à considérer l'intelligence artificielle, soit la tendance, disons, ingénieur, où on tente de faire en sorte que les machines puissent faire des tâches pour lesquelles, en fait, chez les humains, ça nécessiterait de l'intelligence, ou alors, de l'autre côté, les cogniticiens, qui essaie de plutôt simuler, en fait, le comportement intelligent dans la machine en essayant de répliquer un peu les mécanismes de l'intelligence humaine, quoi, en gros. Donc, ça, c'est deux tendances. Mais en gros, ce qu'on voit l'IA d'aujourd'hui, c'est qu'on va tenter de représenter les connaissances dans la machine pour que ces machines-là puissent être capables de raisonner et résoudre des problèmes, quoi, en gros.
OK. Alors, dans l'ordinateur, on va lui donner une connaissance A, une connaissance B, pour qu'elle puisse prendre une décision C qui ne fait pas partie de ses connaissances.
Voilà. Donc, ces décisions-là, en général, va être prise parce que l'ordinateur a été instruit par des règles d'inférence. Mm-hmm. Un exemple de règle d'inférence assez simple, c'est ce qu'on appelle le modus ponens.
Le quoi?
Le modus ponens.
Okay.
En logique, qui dit que si une proposition A est vraie et que la proposition A implique la proposition B, alors la proposition B est vraie. Alors, donc, si vous dites par exemple que tout homme est mortel, mm-hmm, et que vous dites à la machine que Socrate est un homme, si vous lui posez la question de savoir est-ce que Socrate est mortel, il dira oui quand même.
On n'a pas le choix de dire que oui.
Voilà,
puis toute façon aussi, la vérité ne peut être partielle, tandis que la fausseté peut l'être aussi. C'est,
exactement, voilà.
Monsieur Nkambou, où est-ce qu'on en est présentement dans le domaine du développement de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que les ordinateurs sont capables de faire?
Bon, je pense que là maintenant, dans les années, je dirais jusqu'en 2000, les gens ont beaucoup travaillé à rendre des machines, disons, intelligentes du point de vue cognitif, c'est-à-dire que représenter la connaissance, équiper l'ordinateur des mécanismes de raisonnement et tout pour résoudre des problèmes. Mais de plus en plus, on va quand même vers un aspect qui a été oublié jusqu'à présent, l'aspect affectif, c'est-à-dire que on veut que, l'émotion, par exemple, est un aspect de l'intelligence qu'on oublie souvent. Ok, donc on essaye aussi d'intégrer dans la machine la capacité à comprendre l'émotion de l'utilisateur qui interagit avec lui. Oui.
Okay.
Donc je dirais que l'aspect affectif, ce qu'on appelle aujourd'hui l'informatique affective, est devenu quand même assez populaire. On le voit à travers les robots qui essaient de comprendre davantage l'humain et tout. Donc, l'idée, c'est d'aller au-delà, en fait, de la capacité de la machine à résoudre les problèmes, à sa capacité à communiquer efficacement avec l'homme, quoi, en essayant de comprendre ses émotions.
Quand vous parlez des robots, ça fait penser à celui que Sony a développé, qui peut danser. C'est à peu près sa seule fonction. Il faut définir l'intelligence. Est-ce que le robot est plus brillant que son créateur? Oui, Tommy, est-ce que c'est la musique de fond, c'est le disque que M. Nkambou a apporté?
Effectivement, peut-être qu'il peut nous en parler un petit peu.
Ben oui, ça c'est la Makossa, ça c'est en fait la musique typique du Cameroun, du littoral camerounais, en fait, les gens de Douala et autres. Alors donc, ça c'est une vieille... un vieux style, j'allais dire.
Douala, c'est une ville au Cameroun?
Ben oui, Douala, c'est un peu la capitale économique du Cameroun, en fait. C'est la plus grande ville là-bas.
Et Yaoundé, la capitale politique.
Voilà.
Vous avez quitté quand, Cameroun?
Oh, ça fait longtemps. Ça fait en 91. Hein.
91?
Oui, oui.
Vous avez quel âge actuellement?
Indiscret, ça.
Pardon.
Retiens-toi.
Non, ouais, pas de problème, je pourrais le dire. Hein. J'aurai 40 ans dans un jour.
Demain.
C'est demain.
On va anticiper, là. Vous leur souhaitez un bon anniversaire.
Merci.
Bon, eh bien, on poursuit en chanson, Tommy?
Ben, en fait, je vais simplement me permettre de lever un petit peu le volume de la musique de fond qu'on a eue pendant l'entrevue. Et puis on vous revient à 70% avec le très sympathique Roger Nkambou et de la famille là-bas qu'on voit.
Oui.
Ouais.
On va peut-être avoir des babayes d'eux autres. Merci à Spencer. On va revenir, Spencer. Tu vas voir, t'es pas là pour rien.
Narcisse Boyer. Oh! Alors attention, il faut tout faire pour la protéger. Lui seul peut la sauver. Je vous conduis dans un autre camp de réfugiés.
Non, monsieur Browning, je reste ici.
Sa mission ?
Donnez l'alerte, on est attaqué !
La maintenir en vie jusqu'aux premières lueurs de l'aube.
Ça va aller, Sam Browning. On va trouver une porte de sortie. On sait que vous n'êtes pas Clark Kent.
Restez là, ça me rendra les choses plus faciles.
Je pars aussi, je veux combattre.
Allons-y. Ici, ce sera notre refuge. Si vous avez des ennuis, vous revenez ici. Parce que partout ailleurs dans le secteur, ce sera un vrai cauchemar.
Le guerrier du futur...
Qui êtes-vous, Sam Browning ?
...est sur le sentier de la guerre. Michael Barré, dans...
En fait, le titre du film, c'était « Pouvoir secret, une grosse bouse audiovisuelle » de Michael Paré. On date de 1987. C'est sûrement un des meilleurs de Michael Paré. Mais pour l'instant, M. Nkambou, moi, j'ai une question qui me trottille le ciboulot. J'ai vu beaucoup de films post-apocalyptiques avec des cyborgs qui détruisaient l'humanité parce qu'on leur avait donné le cadeau de l'intelligence. Mais là, vous ne préparez pas ça, là!
Mais bon, ça, c'est le côté peut-être négatif. Hein. Vous savez, chaque création, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Hein. Oui. Lorsque Einstein a créé, enfin, vous savez, c'était pas, il pouvait pas imaginer que sa découverte pouvait être utilisée pour des fins, je sais pas, de bombes atomiques, des choses comme
si
ça.
Si Oppenheimer s'était
donc,
douté.
Alors, c'est
mais
sûr que si
intelligent on... comme ça, comment se fait qu'il s'en ait pas douté, justement?
Ouais, hein, c'est le grand paradoxe.
En tout cas, c'est sûr que si on crée des machines qui peuvent essayer de se comporter, parce qu'en fait, en fin de compte, ce qu'on essaie de créer, là, c'est des machines qui devraient avoir l'intelligence assez proche de celle de l'humain, quoi. C'est-à-dire que les deux aspects, cognitif et affectif. Alors, à partir de ce moment-là, on crée un peu comme d'autres humains. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'esprit ou des choses comme ça.
Dans le domaine, justement, du développement d'applications d'intelligence artificielle, vous avez travaillé avec l'Agence spatiale canadienne.
Oui.
Décrivez-nous ce que vous avez fait pour l'agence.
Ça, c'est peut-être un bon exemple, justement, de l'utilisation de l'IA pour quelque chose de très utile. Alors, le truc, c'est... vous connaissez tous peut-être le bras canadien, le bras robotisé canadien. C'est le fameux bras que vous voyez sur l'Agence spatiale internationale.
Connaît,
voilà.
Oui.
Donc, qui est utilisé pour déplacer des charges ou pour décharger la navette lorsqu'elle arrive et tout. Alors, donc, cette tâche de manipulation de bras est une tâche très complexe, en fait.
Okay.
Alors, la formation que les astronautes suivent pour cela est une formation très, très difficile. Alors, donc, ils ont besoin de s'entraîner énormément pour être efficaces. Donc dans ces manipulations.
Vous avez fait un simulateur.
Alors ce qu'on a fait, c'est justement un simulateur qui leur permet de se former à l'avance. Et puis le simulateur en fait a été vraiment calqué sur le vrai bras. Mm-hmm. Et puis avec ça, donc ils peuvent, on peut créer des défis, des tâches, etc. Et puis ils vont essayer de résoudre ces tâches-là, de faire ces déplacements complexes-là. Et puis le système en fait. Qui est équipé quand même d'une base de connaissances, mm-hmm, qui lui permet de raisonner, qui lui permet de comprendre ce que l'astronaute est en train de faire, est capable justement de jouer le rôle de l'entraîneur en fait, en gros.
Okay.
Donc lui donner des explications, lui donner des conseils, etc., etc. Donc l'idée, ça serait possiblement d'embarquer ce genre de logiciel sur la station, de sorte que même étant en orbite, enfin j'allais dire même étant dans l'espace, qu'il soit, mm-hmm, capable justement de pouvoir s'entraîner, continuer à s'entraîner.
Vous l'avez développé avec quel langage?
Bon, il a été fait en C Sharp. En fait, le simulateur lui-même, il est fait à...
Microsoft?
Oui, oui. Oh. Bon, mais écoutez, ça, c'est...
Parce que vous n'avez pas pensé à Windows effectuer une opération non conforme. Le droit canadien va être fermé.
mais le simulateur, par contre, a été fait avec Open Inventor. Donc, c'est vraiment très, très réaliste. Hein. Et puis, bon, il faut dire qu'on a une phase de projet. Hein. C'est un projet de recherche. Mm-hmm. Alors, donc, c'est sûr qu'au moment venu, on est en train de discuter avec l'Agence spatiale canadien justement pour le déployer effectivement. À ce moment-là, ça peut nécessiter un redéveloppement quoi, du système. Ouais.
OK. On va faire dans le coq à l'âne maintenant. Passons un peu plus au sujet footballistique. Mmh. Dites-moi, bon, OK, j'ai ici avec moi le classement championnat national du Cameroun. Qui est en première position, le savez-vous?
Oh, ça c'est une bonne question. Enfin, c'est vrai que j'étais au Cameroun récemment, je ne me suis pas beaucoup intéressé à cela, mais j'imagine que ça doit être quoi, Tonnerre de Yaoundé? Oui.
Non, c'est le Coton Sport.
Canon de Yaoundé.
Non, c'est le Coton Sport de Garoua. Canon de Yaoundé est deuxième devant les Astres de Douala. Vous venez de Douala, vous travaillez pour l'Agence spatiale canadienne, l'équipe s'appelle les Astres.
Ah.
Puis là, je regarde la liste des noms d'équipes. Il y a les Aigles, le Foudre, mais là, en 14e position, il y a les Impôts de Yaoundé.
En fait, vous savez, les impôts. Donc, en fait, les noms qu'on donne aux équipes, c'est par rapport à la.
À l'argent.
Non, mais enfin, j'allais dire à la. Comment dirais-je? Quand on parle d'un aigle, en fait, aigle royal, on parle d'un animal assez féroce, quoi, tu vois, enfin, quelque chose comme ça. Donc, impôt, bon, là, c'est le fisc.
C'est plutôt féroce.
Ouais, c'est très féroce.
Ouais, surtout pour les joueurs de foot hein, en particulier. Mais. Bon, OK. Bon, j'ai sûrement d'autres questions ici. Je voulais savoir, monsieur, qui est le deuxième meilleur prof d'informatique à l'UQAM? Question au piège.
Wow.
C'est le premier, c'est vous.
Oh non, je... pas cette prétention, c'est sûr que non, absolument pas, mais c'est sûr qu'en informatique, on a des bons profs. Hein.
On a des très bons.
Norman Séguin, on est un qui est très connu, justement, un excellent professeur. Oui. Tout le monde en parle, donc voilà.
En effet. Je vais vous demander, OK, qu'est-ce qui explique la déconfiture de l'équipe camerounaise? Comme vous savez, ils n'ont pas fait le mondial cette année. Vous êtes classé, je crois, 13e oui. au monde.
Par la FIFA, oui.
13e maintenant, oui.
Ben, il faut dire que, vous savez, ils n'ont pas pu participer à la phase finale de la Coupe du Monde, mais en réalité, ça a été des justesses quand même, hein, on peut le dire. Hein. Mmh. Le match contre la Côte d'Ivoire, vous avez vu, hein, donc je crois que c'était un match, tout le monde en conviendrait avec moi, je crois que c'était un match quand même de taille. Hein, donc le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, ça aurait pu être la même chose.
Hein. Okay.
Donc je pense que, à mon avis, la Côte d'Ivoire a mérité de participer à la phase finale, comme le Cameroun aurait pu aussi le faire. Alors, donc,
respect de l'ennemi vaincu. Vous en faites du vainqueur.
Vous serez là en 2010?
Oh, je suis certain que oui.
Surtout sans salle africaine, oui, cette fois-ci.
Oui.
Harry Hahn est maintenant le nouveau
dernière avant la.
Oui, absolument. Ouais. Et le nouveau sélectionneur néerlandais de l'équipe du Cameroun, satisfait?
Oh, ben, je crois qu'il y a pas mal de choses qui se disent. Hein. Vous savez qu'au Cameroun, ça n'est pas toujours facile. Ça n'a jamais été facile pour un coach. Hein. Là-bas, c'est très, très difficile. Déjà, parce que la question qui revient toujours, c'est est-ce qu'on est obligé d'aller chercher des gens à l'extérieur quand même? Il y a des bons Camerounais qui auraient pu faire ces boulots-là. Quoi. Donc. Alors, ce qui fait qu'il y a toujours un peu de tiraillement, un peu de la politique aussi. Ben, enfin, bref, pour l'instant, je pense que l'important, c'est que l'équipe soit soudée autour de cette personne. Okay. Quoi. Enfin, c'est ça qui est important.
Bon, on y va en chanson, on revient un peu plus tard avec le reste de l'entrevue.
Oui, certain. On va y aller cette fois-ci avec Glass Tiger et Diamond Sun. Intervention très pertinente, Pascal. Hein?
Ben, je connais pas ça, moi.
Ben non, c'était parfait. Il faut que tu parles quand ça te tente. Never to be. Oh.
believe. Someday the sun will shine, you shall be free. When blessed children as they're put to the test.
Ça, c'est le premier album de musique que j'ai demandé à ma fête. Je devais avoir quoi? 7 ans? Mes parents m'ont donné ça avec plaisir. Je vous aime, papa, maman. Ça a fait un gros plaisir de vous revoir en fin de semaine. Bravo à Martin. Martin Godette qui s'est marié avec Marie-Claude Beaulieu. J'espère que je ne me trompe pas sur le nom de famille. En tout cas, ben, rock and roll. Là, on va aller voir un petit peu d'extrait, puis on revient avec Roger Cambou ainsi que nos autres invités à 70%. L'émission de ceux qui donnent le strict minimum.
Ben, gang, pas fun, jouer, jeu. Ça rentre bien, gang, pas fun, jouer, jeu. T'as vite content.
Ah ben pendant qu'on a la trame sonore de Kid Nicky ici, je vais en profiter pour parler vite fait d'un des deux jeux vidéo que j'ai apporté. Super Mario Sunshine, qui a été fait en 2002 par GameCube, pour GameCube, Nintendo bien sûr. Un des meilleurs jeux de tous les temps, l'upgrade 3D et tout, ça vous le prend. Si vous avez jamais joué à ça, ben il vous manque quelque chose d'important dans votre vie. Parce que contrairement au juge texan qui a déclaré que les jeux vidéo n'en étaient pas une forme d'art, ben moi je pense que ça en est. Bon, c'est le fun. Bon.
Prosternez-vous et adorez Satan le Tout-Puissant.
Prosternez-vous, vous autres.
Toi le premier.
Comme un joueur qui voulait, puis ils m'ont tout de suite dit on est content de ça avec nous autres. Vas-y à l'attaque, on veut que tu comptes des buts pour nous autres, on veut que tu. Peut-être Jeff avoir la rondelle, puis Joe aussi, puis ça a bien fonctionné. Le premier match, j'ai compté 2 buts à Toronto, puis ça a bien continué.
Vincent Danfous dans toute sa gloire.
Que voulez-vous de moi?
Arrêtez votre vengeance.
J'y réfléchis.
Catholique.
Tiens donc.
Pardonnez-moi, Seigneur. Je suis une cochonne. Je vis dans le péché.
Normal quand on a un joli petit cul.
Je suis chez moi. Vous ne pouvez pas entrer comme ça.
Je suis désolé, mais je crois bien que si.
Ah, c'est vous qui avez fait ça, monsieur?
Mais je paye les notes. Écoutez,
ça va, madame?
Je l'ai épousée, c'est ma femme. Et je la frappe. Vous voyez, je vous le dis. Je la frappe.
Et voilà, c'est sur ces paroles pleines d'un intellectualisme évident qu'on va retourner en studio pour parler de choses un petit peu plus élevées comme bras canadien ainsi que intelligence artificielle.
Monsieur le Cambou, vous êtes croyant?
Oui.
OK. Pentecôtiste?
Pardon?
Pentecôtiste?
Non.
De quel...
catholique, ouais.
Catholique?
Oui.
Écoutez bien ça. OK. Elle pas pire, celle-là. Un jeune pasteur d'une église pentecôtiste s'est noyé lundi sur une plage de Libreville. Libreville, capitale du Gabon, c'est ça?
Oui, oui.
N'est-ce pas? En voulant marcher sur l'eau, à l'instar de Jésus-Christ dans la Bible. Selon le quotidien gouvernemental L'Union, le pasteur d'origine camerounaise aurait eu une révélation lui permettant de rallier la pointe Denis, qui est séparée de Libreville par l'estuaire du Como, qui est en fait une traversée d'une vingtaine de minutes en bateau environ. Alors, en voulant dominer une mer généralement impitoyable avec ceux qui la défient, le serviteur de Dieu a tout simplement sombré en présence du photographe qui l'avait pris comme témoin du miracle et de quelques fidèles auxquels il avait promis la guérison. En effet, les églises pentecôtistes, souvent d'inspiration américaine, se sont multipliées depuis le début des années 90 au Gabon, pays d'1,3 million d'habitants qui en compte actuellement plus d'un millier, rassemblant environ 120 000 fidèles réguliers. Les pasteurs promettent généralement à leurs fidèles que leur foi leur apportera succès. Succès professionnel et amoureux, santé et richesse, etc. Certains prétendent pouvoir accomplir des miracles et notamment guérir toutes sortes de maladies, de la simple grippe jusqu'au sida.
Oups. Ben, on en a un peu partout, hein, au Canada aussi, à Montréal, hein, il y en a pas mal, ce genre de...
Oui, je sais. Ici, qui se promènent avec le crâne rasé, puis un petit tambour habillé avec une toche, puis qui font poum-poum dessus.
C'est ça, même les pentecôtistes aussi, hein, ouais. Il y en a pas mal. Hein.
Oui, il y a des habits tout partout.
Ah, oh, c'est dommage.
Oui, non. Un message d'amour et de paix transvesti en une espèce de... Puis ouais. Je veux dire, le gars, c'est quoi, il a amené des photographes puis tout pour...
pour
c'était
le prendre.
C'était genre un événement culturel.
Oui,
de
il
la
a dit je vais faire un miracle, alors voilà, venir prendre en photo.
C'est ça, ouais. Hein.
Il n'est
pas
péché
par orgueil jamais, lui, en tout cas. Okay. Ouais, c'est pratiqué, c'est bon.
tout ça dans le but de recruter, hein, en fait.
Oui, j'imagine. Évidemment. Ouais. Monsieur Nkambou, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le gouvernement camerounais a débloqué 1,209,500,000 de francs CFA,
oui.
Okay, représentant les dépenses avant compétition et les primes des matchs du premier tour. Pour les quarts et les demi-finales, le secrétaire général des services du premier ministre, qui avait fait le voyage du Caire, avec 467 millions de francs CFA supplémentaires, mm-hmm. c'est ça? 375 millions de plus.
Près, ça fait à peu près 1 million de dollars, là.
Était prévu au cas où le Cameroun atteignait la finale. Combien ça coûte un steak en francs CFA?
Alors, si tu fais un calcul rapidement, ça fait 2500 francs CFA, un steak.
Ah ben...
Simon et Bouche B.
Voilà, donc quand donc, vous parlez c'est... de 450 millions de francs CFA, ça mais... c'est 1 million de dollars, tout simplement.
OK, fait que 1 dollar, c'est 450 francs CFA.
À peu près, ouais. 450, 500 francs.
OK, voilà. Bon, ça revient au même prix que le, ouais. Du bon bœuf canadien.
Alors, c'est pas beaucoup, beaucoup d'argent, en fait. Hein. On entend des milliards et tout, mais en fait, ça ne représente pas grand-chose. Et en fait, ces joueurs-là ont souvent été lésés justement par ces mêmes gouvernements, hein, vous savez. Donc, c'est pas grand-chose.
OK. Le Cameroun, récemment, s'est nettement imposé pour la préparation CAN 2008 face au Rwanda.
Ouais.
Je crois que les Rwandais sont un peu les rivaux hein, des Camerounais.
Non, non, non.
Non, je veux dire, au niveau du soccer, bien sûr. Là.
Non, je crois pas. Enfin, je sais pas. C'est pas parce que je suis Camerounais. Hein. Je pense que le Rwanda, c'est pas une grande équipe, quand même, de soccer. Ça, c'est sûr. C'est pas un grand... entre nous, là, quand même. Hein.
Mais bon, l'équipe... Vous êtes les Lions Indomptables. Le Rwanda sont les Amavubi. C'est quoi un Amavubi?
Aucune idée.
Moi non plus.
Quelqu'un le sait?
Un esprit qui se nourrit du sang de ses adversaires.
Okay. Ben, je trouve que ça a quand même plus d'allure que s'appeler les impôts.
Les impôts. Les impôts, je pense qu'on va s'en rappeler.
Qu'est-ce qu'un lion ferait face à un impôt? Face à un impôt, ouais, disons.
Vous allez voir, ça dépend toujours de son revenu.
Quel drapier, excellent.
Avant de voler son revenu.
Du beau fiscaliste ici à 70%.
OK. Monsieur Nkambou, quel est l'avenir du Cameroun? Qui sont les joueurs susceptibles de percer?
Bon, ben là, l'incontournable Eto, évidemment, bon, enfin, qui est quand même, il est en milieu carrière, hein, Eto, donc les Lions vont pouvoir compter sur lui encore pour plusieurs années. J'imagine il sera là en 2010, évidemment. Bon, sinon, je sais pas, hein, donc je connais pas, j'ai pas vu, je vois pas encore beaucoup de jeunes. Mm-hmm. Parce que vous savez, le truc, c'est que le Cameroun en général va aller chercher ses joueurs à l'extérieur, quoi, en gros. Donc dans le championnat national, c'est un peu difficile, hein, donc de trouver. Ouais.
On parle d'un jeune prodige, un nom qui revient souvent, Benjamin Mukanjo. Vous connaissez?
Non.
Makoun peut-être aussi.
Ah oui, Makoun 2, oui. Ouais. Peut-être.
Makoun, il joue à Lille actuellement, il est vraiment bien aussi.
Puis toi, Michel, qu'est-ce que t'en penses? Sénégal ou Cameroun qui passe pour le Mondial 2010?
Ben, les deux vont passer, à mon avis. Oui. Là.
Oh, c'est gentil.
Réponse, c'est vrai, c'est très politique, le football africain. C'est en fait, diplomate.
En fait, vous savez quoi? En fait, l'Afrique a quelque chose à démontrer pour le prochain Mondial, vous savez. Parce que jusqu'alors, le meilleur qu'on a pu faire, c'est d'atteindre les quarts de finale.
C'est ça.
Donc là, ça va se passer en Afrique. Alors, il est temps d'aller un peu plus loin que ça. Alors, j'imagine que...
C'est le moment opportun. Là,
voilà,
ça
serait bien. J'espère que les meilleures équipes seront de la partie, quoi.
Un peu comme la Corée du Sud qui s'est rendue en demi-finale en 2002 quand ça s'est passé.
Exactement.
Et le sélectionneur, c'était Dick Advocaat, qui est néerlandais, puis vous avez un néerlandais à votre bar maintenant.
Ils sont bons, les néerlandais, en général. Les Hollandais sont très bons, en fait. Moi, je les aime bien.
Ouais. Est-ce que vous saviez qu'à la dernière Coupe du Monde, le Dick Advocaat s'est plaint du terrain d'entraînement qu'on leur avait réservé? Les jardiniers avaient coupé le gazon à 25 mm et puis c'est 28 mm la longueur réglementaire.
Effectivement.
Il s'est plaint auprès de la fédération.
Sur ces belles paroles, est-ce qu'on poursuit en chanson?
Oui, poursuivre en chanson.
Ouais, je vais mettre une toune que Daniel Lavoie lui-même a écrit pour un film québécois qui s'appelle Moustache. La preuve que les grands, quand ils tombent de plus haut.
Ouais. Il y a quelqu'un qui a des moustaches ici en plus.
Faire attention à ça, les moustaches.
Ah oui, ça sera chaud.
Il y a un gros chat qui joue dans la ruelle. Un gros chat grafouille dans les poubelles. Il n'a pas de moustache, mais il a des cheveux. Corrigez-moi si je me trompe, ce chat n'est pas un chat. Il fait un silence de souris quand il arrive tard dans la nuit. Il me parle de ses amis. Ma langue au chat, j'ai tout compris. Qui est ce gros chat qui joue dans la ruelle? Ce gros chat gras qui fouille dans les poubelles. Il n'a pas de moustache, mais il a des cheveux. Corrigez-moi si je me trompe, ce chat n'est pas un chat. Non.
Wow, de toute façon, vous voyez à peu près ce que ça donne. Là. C'est Daniel Lavoie, bien sûr. Trame sonore de moustache. On a tellement d'invités en studio et puis il n'y a pas grand monde qui a réussi à parler à date. Donc, je vais plus skipper vers la prochaine chanson qui est Dragons and Fable. 3 minutes d'intermède musical et puis on revient. On va discuter avec Michel Spencer, Pascal Saumon et Roger Nicombe. C'est à peu près ça. Maudit que j'ai bien fait ça. Ah, peut-être que je peux parler un petit peu de ce groupe-là. Osric Tentacule, eux autres, c'est une gang de geeks qui jouent à Donjons et Dragons. Ils ont réalisé un jeu qui n'avait jamais eu de soundtrack approprié à leur game de Donjons et Dragons. Donc, ils se sont dit, on va en faire, nous autres. Celle-là, c'est Dragons and Fables. Live, en plus. Vous allez voir, c'est du bon stock. Osric Tentacule. Ouais, j'ai décidé de garder la trame sonore de fond sonore de Castlevania parce que j'aime bien ça, Castlevania, puis la tune est bonne. Pascal, on
Salut.
Parle de cul.
Ben, OK. Là, cœur sensible, s'abstenir. Oh. Et sceptique, rester à l'écoute parce que j'ai une petite histoire, puis après ça, je vais commenter cette histoire-là pour la démentir.
Ah, ben c'est parfait, ça.
C'est une histoire que j'ai prise sur le site Canoë. Dans le fond, c'est deux résidents de la rive sud de Québec qui affirment avoir contracté le virus de l'herpès cutané au cours d'une séance de maquillage. Donc, c'est une séance de maquillage qui se donne genre aux ailes de la mode.
OK.
Je sais pas si j'avais le droit de le dire.
Oui, ben oui. Ailes de la mode, ailes de la mode, ailes de la mode.
Oui, c'est
ben,
les doigts.
Si tu dis quatre fois à radio, là, ben t'exploses.
Mais enfin, ils réclament chacune 120 000 pour de dommages. Parce que le 7 juillet 2005, il se serait rendu dans une succursale des ailes de la mode pour y recevoir une séance de maquillage de type démonstration. Les deux filles, ils disent que la maquilleuse, elle n'a pas procédé à aucune désinfectation des produits de maquillage et du matériel entre les deux séances de maquillage. Oh. Donc, tout ça quelques semaines plus tard, les deux jeunes filles, une qui s'appelle Audrey, elle s'est réveillée le matin avec des plaques rouges douloureuses au niveau de la paupière. Et Dominique, elle, c'était au niveau des joues et du nez. Mmh. Alors, elles se sont rendues à l'hôpital et les médecins ils leur ont affirmé qu'elles avaient contracté le virus de l'herpès cutané fort probablement au cours de la séance de maquillage du 7 juillet.
Oui. Mais l'herpès cutané, je veux dire, c'est pas l'espèce
je m'en
de
patente.
OK.
Je m'en viens, check-moi bien ça. Fait que là, eux autres, les filles, ont reçu un traitement antiviral, puis ils ont pas pu sortir de chez eux pendant ce temps-là. Ils ont dû manquer du travail et tout.
Oh.
Fait que donc, t'as les procureurs qui affirment que les défendresses, ils ont pas été sont fautives dans la mesure où elles ont fait preuve de négligence parce qu'elles avaient pas nettoyé le matériel lorsqu'elles avaient fait leur démonstration de maquillage. Mm-hmm. Mais dans le fond, y a-t-il quelqu'un qui sait comment ça s'est contagieux, l'herpès? Tu le sais-tu, toi, Simon?
Non.
Tu sais pas comment ça s'attrape?
Bon, ben,
non.
C'est un contact simple. Hein, c'est
ben oui.
Hein.
Mais c'est pas un contact, c'est comme tu peux pas attraper ça en t'assisant sur un bol de toilette.
En m'assoyant sur un bol de toilette.
C'est ça que j'ai dit, veux-tu bien?
Oh ouais.
Puis tu peux pas le pogner comme ça, c'est vraiment par contact direct avec la peau parce que c'est comme le virus du sida, le virus vit pas à l'extérieur de l'organisme.
Okay.
Alors là, les deux filles déjà là, on voit qu'il y a un petit problème entre les deux oreilles parce que c'est certainement pas à cause du maquillage qu'ils ont pogné ça.
Wow, en tout cas, ils ont été très mal conseillés à l'hôpital.
Ben, je sais pas, là, mais je voudrais bien voir leur médecin, moi.
Wow. Mais là, ces deux filles-là, OK, ils l'ont attrapé avec un contact de la peau.
Ils disent que c'est à cause du maquillage qui n'avait pas été désinfecté.
Je sais, mais non, OK, sauf qu'elles ont bel et bien leur pèse.
Ouais.
Ils ont pogné ça à cause qu'il y a eu contact de la peau parce que le virus ne peut pas vivre ailleurs que dans
l'extérieur.
Un organisme. Puis leur pèse, ils l'ont attrapé en même temps.
Comme par magie. Mais enfin.
Conclusion,
c'est deux lesbiennes qui ont fait du frotti-frotte ensemble. Puis eux autres s'en vont poursuivre la compagnie.
Mais
prenez-vous un avocat, Madame Lisoitier et compagnie, puis démontrer que ça marche pas parce que c'est vrai. Puis ont manqué du travail. Ben, je m'excuse, mais l'herpès, tu manques pas de la job à cause que t'as l'herpès. T'as juste à pas embrasser tes collègues, là.
Ouais, mais c'est bien dur de se retenir, peut-être.
Ben, si c'est des grosses lesbiennes cochonnes, peut-être.
C'est quoi cette phrase?
Mais c'est justement, qu'est-ce que je m'en allais dire? L'herpès génital se transmet justement pas sur une cuvette de toilette, donc pas avec le maquillage. Et peut-être, elles disent qu'elles ont attrapé ça cette journée-là, mais tu peux très bien être porteuse du virus, puis que ça se développe pas pendant un temps, puis qu'un jour, hop, t'as une poussée de fièvre, puis t'as un bouton de herpès qui apparaît.
Pour les deux en même temps.
Puis là, ça a donné que les deux en même temps, fait que c'est peut-être... moi, je crois qu'il y a une arnaque là-dedans.
Oui, probablement.
Mais en tout cas...
Puis en plus, c'est une experte, toi, là.
En herpès?
Ben, non, mais je veux dire en maladie.
Dans ça, si tu dis...
Non, mais est-ce qu'on peut avoir plus d'esprit de bottine, s'il vous plaît?
Plus de?
Ben là, t'étudies en quoi?
En rien.
Ouais. Mais non, étudiante libre.
C'est ça.
Ah, ouais?
Mais tu sais quoi de l'herpès, toi?
Quel programme?
Tommy, toi qui es si intelligent.
Ben, c'est, je sais pas, une infection de la peau.
Une infection de la peau. Veux-tu savoir c'est quoi?
Un virus.
Veux-tu te le dire?
C'est trop d'amour. Ben oui, c'est sûr.
En fait, il s'agit de démangeaisons, de brûlures et de picotements. Attention, là, ça va devenir dégueulasse. Des douleurs peuvent être ressenties au passage de l'urine. Dans un deuxième temps, des petites cloques apparaissent. Elles se rompent et donnent des petites plaies à vif, parfois douloureuses.
Est-ce que c'est ce qu'on appelle la chaude pisse?
Non, c'est pire. Okay. Puis des croûtes se forment et tombent sans laisser de cicatrices. C'est dégueu, hein?
Ouais.
Fait que c'est peut-être pour ça que les filles n'ont pas voulu sortir de chez elles.
Il était moins présentable.
Ouais, c'est ça.
C'est un social puis tout, là.
Mais quand même, on s'entend-tu pour dire que tout ça, c'est une grosse arnaque? Puis que...
Moi, je suis d'accord avec toi. J'aimais ton explication tantôt.
Ouais, les lesbiennes qui ont fait du frotti-frotto.
Est-ce que ça veut dire que si quelqu'un peigne leur père, ça veut dire qu'il plus jamais il peut embrasser son conjoint, c'est ça?
Il peut, sauf quand il sent qu'il va avoir une poussée, ben, il est mieux de s'abstenir. Okay. De tout contact sauvage, sexuel,
en fait,
de tout.
C'est
ouais.
De l'herpès. Okay.
Puis quand t'as, quand t'as l'herpès buccal, là, c'est genre, ça va te pousser sur une lèvre, c'est comme ça a l'air d'un flocon de cornflakes.
C'est lui. C'est ça. Mais il y a deux sortes d'herpès. T'as l'herpès génital, puis l'herpès buccal. Les deux sont différents, mais ils peuvent se transmettre par les deux voies, tu vois.
Ouais. Et ça se traite pas, hein. Il me semble que ça se traite pas, n'est-ce pas?
Non,
pas
c'est à vie. Quand t'as ça, t'es pogné avec ça à vie, puis tu pries pour pas que ça apparaisse souvent.
Ben, c'est un nom encore bien plus féroce que les impôts, ça.
Ouais!
Ce soir, l'herpès de Montréal, la fonte, ouais, c'est pas mal.
L'inguérissable herpès de Montréal.
Fait que, morale de cette histoire, lorsque vous allez faire du frotti-frotta ou n'importe quoi, ben, protégez-vous donc.
Bon.
Hein?
Mais des condoms faciaux, ça existe.
Ben, c'est ça. Ben, ouais. T'as juste à prendre une digue dentaire, puis la foutre d'en face à ta blonde, puis l'embrasser. C'est pas très charmant, mais ça fait l'affaire.
Ça fait que tu manques pas de journée de travail.
Ben, c'est ça. Puis tu passes pas pour des lesbiennes cochonnes qui savent plus où se pitcher.
À radio de Choc FM, l'alternative urbaine.
Fait que Liv Zoitier peut dormir sur ses deux oreilles ce soir parce que je pense pas que ça va marcher.
De toute façon, avec l'argent qu'elle fait, elle aurait pu se payer des avocats.
Je pense que j'ai trouvé quelque chose de spécial pour Aurélien. Là.
Ouais.
Quand même qu'elle aurait été coupable là-dessus. Alors, une petite nouvelle, puis on poursuit en chanson?
Oh. Ouais, ouais, ben en fait, oui. Bon, on va faire ça. Aurélien, c'est pour toi.
Rien ne m'arrête! Je suis un ninja!
Oh, mon ninja!
Rien ni personne ne m'arrêtera!
Puissance.
Oh oui, au Japon.
Seul un ninja peut détruire un ninja.
Excellent, Aurélien. Seul un ninja peut détruire un ninja. OK, tout le monde ensemble, tout le monde ensemble.
Seul un ninja peut détruire un autre ninja.
Mais, oh, une seule puissance, oui, oui, oui.
Seul un ninja... peut détruire un ninja.
Hey, excellent!
Ça commence à rentrer.
Ah oui, je pense que oui. Fait que là, ben, je vais mettre la toune qu'on n'a pas pu terminer la semaine passée parce que mon lecteur MP3 est tombé. Je la trouve un petit peu cocasse. Je pense que c'est les chummies. C'est ça le nom. Ah oui, ben, oh oui. Oui, c'est toi le ninja. Donc, les chummies, groupe de François Godette.
Oui.
Avec le ciel est clair à soir.
C'est vrai.
Les filles sont belles à voir.
C'est vrai.
Vous allez voir, c'est du bon matos. Mais là, on va la finir. Puis on vous revient à 70%.
Le ciel est clair à soir. Les filles sont belles à voir. Débouche-toi dans une bière. Santé à toi, mon frère.
Hey, hey. On va faire le party.
Oh yeah.
Oh yeah. On va se la saouler.
Yeah.
Hey le boss, wow. Viens donc pas m'écœurer.
Parce qu'à soir c'est nous autres les boss, puis on va péter. À toutes les coupes matchées, y'a ceux qui ont compris. Chum est ben pacté, pis à ceux qui ont mal vieilli, bienvenue sur le coin de mon feu, tire-toi une bûche mon vieux, tu vas voir que dans y'a rien de mieux, qu'une bière, un joint, la gang, un feu.
Hey, hey, on va faire le party. Qu'on va se la saouler. Hey le boss, viens donc pas m'écœurer. Oh,
chums, c'est les chums. Oh, c'est pas qu'on me l'avait pas dit. La vie c'est noir, c'est blanc, c'est gris. Puis c'est avec ça que j'ai grandi. Puis regardez ce que je suis devenu aujourd'hui. Ce que je suis devenu aujourd'hui.
Et voilà, on est de retour. Ça a fait du bien de finir ça, cette chanson-là. Comment ça que le volume est dans le prélat? C'est vrai que j'ai une belle voix radiophonique. Ah, je viens de tout comprendre.
Agré.
Donc, on baisse un petit peu. Mais voyons, c'est bien trop fort. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah, je viens de comprendre. C'était ici l'ordinateur qui était dans le fond. Spencer!
Oui?
Là, je te vois, là. C'est quoi ton nom de famille, Spencer?
Mann, M-A-N-N.
M-A-N-N?
Oui.
Hey, c'est viril, ça.
Ah, ouais, c'est vrai.
Est-ce qu'on te le fait remarquer souvent que c'est viril?
Non, pas beaucoup.
Pas beaucoup?
Non.
Hey, man. ça veut dire que t'es chum, tu sais, parce que nous autres, au Québec, on écoute beaucoup de hockey, puis quand ils parlent de hockey à TV, ben, c'est les noms de famille seulement. Fait qu'on s'appelle beaucoup entre gars par nos noms de famille. Fait que toi, il disait, hey, man.
Ouais, c'est un peu mélangeant comme ça,
disons. Ah, yeah, c'est vraiment.
Mais toi, man, tu viens du Maine.
Oui, c'est vrai.
Okay. Et pourquoi t'as décidé de... C'est quoi les circonstances qui font que t'es abouti ici à Montréal?
Puis j'ai travaillé comme une guide de kayak de mer en Maine.
Kayak de mer, ok.
Ouais. Et j'ai rencontré beaucoup de différentes personnes sur le mer, comme chaque jour dans l'été. Et il y a beaucoup de gens qui a parlé des histoires de Montréal, des universités ici. Et j'ai pensé, pourquoi pas? J'ai peut-être regardé moi-même et... Et j'ai entendu de McGill et le ville de Montréal et arrivé ici après ça.
Ok, là, t'es étudiant ici?
Oui, oui.
À quelle université?
À McGill.
Ok, ça fait combien de temps que t'es arrivé?
Depuis 6 ans.
Et ça fait 6 ans que t'as commencé à apprendre le français?
Ah oui, c'est vrai, j'ai jamais étudié le français avant que j'arrive ici. Et j'ai juste commencé d'apprendre le français avec des amis, okay. Des colocs.
Mais t'es bon, ça paraît pas.
Wow.
C'est vrai que t'as fait ça toute ta vie.
Il est plus bilingue que la moitié des députés fédéraux qui sont supposés être bilingues.
Ouais, c'est ça. mais dis-moi, Spencer, toi, t'es citoyen canadien, là, ou t'as la
résidence? Non, maintenant, j'ai juste un permis de travail, okay. Temporaire, mais je suis en train de faire une demande pour de résidence permanente. Okay.
Donc tu émigres au Canada, définitivement.
Ouais, ça, c'est... Ouais.
Okay. Ça n'est un qui a compris, enfin.
Ouais, okay. Je sais pas si... C'est comme dire que McDo, c'est pire que Burger King, mettons. Là.
Okay.
C'est dur de toutes les mettre de comparer.
Mais c'est pareil. Ouais.
Mais t'es venu ici, qu'est-ce qui t'a... On a compris ce qui t'a attiré, mais pas nécessairement ce qui t'a gardé ici. C'est pas uniquement les études, il doit avoir un... c'est quoi, c'est le système de valeurs, c'est une femme, évidemment.
Non, pas maintenant, mais en général, je pense que pour moi, c'est vraiment... j'aime la culture québécoise. Je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie progressive dans la culture québécoise. Je pense que je ne vais jamais voir une fête nationale comme la fête Saint-Jean dans les États-Unis avec un groupe comme le Cowboy Fringant avec 100 000 personnes dans l'audience. Je pense que je ne vais jamais voir ça dans les États-Unis. Mais ici, je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie.
OK, mais par exemple, un 4 juillet, je sais pas, dans l'Indiana avec John Cougar Mellencamp, ouais. Pour pas que ça a plus de...
pas assez progressive comme le Cowboy Fringant ici.
Ah ouais, OK. Okay. C'est ouais. Le besoin de nouveauté peut-être que tu satisfais plus ici qu'au Maine.
Oui, je pense. Et aussi, ici à Montréal, c'est une communauté vraiment multiculturelle. Ouais. Et je suis vraiment connecté à différentes communautés plus dans l'ouest, dans le Notre-Dame-de-Grâce maintenant. Mm-hmm. Mais ça, c'est la chose qui me tire encore à Montréal. C'est ça.
Et puis, je me demandais, au Maine, le sentiment nationaliste envers les Américains, est-ce que tu vas là souvent? Est-ce que tu as encore des amis beaucoup là-bas? Ou?
Ah oui, mais il y a aussi, avec mes amis en Maine, il y a beaucoup de discussions de peut-être partir des États-Unis et rejoindre le Canada.
C'est parce ça, il y a un mouvement séparatiste qui commence là-bas. Là.
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens progressifs en Maine aussi.
Bon, ben vive la démocratie.
Est-ce que tu connais beaucoup d'Américains qui ont immigré au Canada, qui habitent à Montréal?
Pas beaucoup, quelques-uns. Mais je pense qu'il y a plus en plus qui cherchaient pour...
Okay. Une, t'es pas seul?
Non.
OK. Monsieur Nkambou,
oui.
Vous pensez retourner au Cameroun, vous installer là-bas un jour?
Installé, je sais pas, mais quand même, j'y retourne très souvent déjà. Hein, donc, et je pense que, en fait, ici, je suis plus utile à mon pays là-bas, hein, quand même, il okay. faut le dire. J'y retourne en mission, je donne des séminaires à l'université là-bas et tout, mm-hmm. voilà quoi. Donc, je sais pas si je vais retourner pour m'y installer, parce que je suis déjà installé ici. Alors, donc,
mais pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir étudier à Montréal plutôt que d'aller en France, par exemple, habituellement?
Oui, c'est une bonne question. En fait, vraiment, pour moi, c'était une question de choix, parce que j'avais vraiment le choix. Mm-hmm. En fait, quand j'ai fini mes études, j'avais vraiment une bourse, enfin deux bourses, une bourse pour la France, une bourse pour ici. Okay. Et il fallait que je choisisse, quoi, en gros. Mais j'ai choisi peut-être le Canada parce que, j'ai fait une école, ce qu'on appelle ici le lycée, en fait, mm-hmm. Qui était un lycée où j'avais connu beaucoup de Canadiens et puis leur façon de faire m'intéressait beaucoup, quoi. En fait, je parle de la politique étrangère en termes d'aide, mm-hmm. en fait, aux pays en développement. Je trouve que la stratégie canadienne est quand même assez intéressante, très différente de celle de la stratégie française, en fait, qui... est une aide malheureusement qui n'encourage pas le transfert, si tu veux, par exemple, des technologies ou du savoir, etc.
Ouais, ils sont donc, assez frileux dans leur façon de
voilà, c'est ça. Donc, ça, je me suis dit, je me sentais mieux de travailler avec les Canadiens. Quoi. Donc,
excuse-moi, Simon, toi, Spencer, la façon canadienne de l'aide internationale, est-ce que tu y vois une différence par rapport à la façon américaine ou.
Pas beaucoup.
Je sais que t'es très impliqué là-dedans.
Je connais beaucoup de gens ici impliqués dans l'aide internationale et je pense qu'il y a peut-être plus d'une emphase sur l'aide humaine ici en Canada. Ah. Je pense que c'est bien comme ça, je pense. Je pense qu'il y a peut-être plus de générosité humaine ici au Canada que dans les États-Unis.
Bon.
Je sais pas.
Puis les deux autres Africains en studio, si ça vous tente de nous lancer des fleurs, c'est le temps, là.
Oui, absolument.
Nous, qu'on est bon, qu'on est bien.
Ben, ouais, on va travailler là-dessus.
Non, il faut le reconnaître, la politique étrangère canadienne est très, très appréciée, en fait.
À travers le
Cameroun,
monde.
Ouais. En tout cas,
au Cameroun. Sors d'une école où j'avais un directeur, un proviseur, il était canadien. Ah. Et c'est lui qui nous dirigeait le Collège Vogt.
Où ça?
Collège Vogt.
Voilà. C'est où ça?
Au Cameroun.
OK.
C'est la meilleure école.
Ah, c'est un Canadien qui avait là-bas? Ah, ouais.
Il est toujours là, précisément, okay. actuellement.
Alors, la même chose que toi, mon proviseur c'était un Canadien. Moi j'étais au lycée polyvalent à l'époque.
C'est son système qui nous a plu en fait, et c'est lui qui nous parlait de ça.
Est-ce que vous avez eu le même là?
Non, c'est pas le même. Okay. Je sais de quoi il parle.
Ok, c'est bon.
C'est pas le même.
Mais un autre point non négligeable et tout à fait pertinent, pourquoi choisir le Canada plutôt que la France, c'est qu'en France, ils ont des claviers AZERTY. Ça,
c'est justement ça qui nous intéresse.
Ça, là, c'est l'instrument du diable.
C'est justement ça qui nous intéresse. Pour une culture, comment dire, plus ample, tu connais déjà le français, mieux vaut encore chercher à apprendre l'anglais. Mais dans notre cas, on est bilingue. Pour réfléchir sur le Canada et la France, si tu prends l'exemple du clavier, on grandit avec les claviers AZERTY et ici, il y a les claviers KOATI. Mm-hmm.
Mais c'est vrai que si on est bilingue, on parle français puis on parle québécois. En France, ils parlent juste français. Comment ça a été au début, M.
Très
Cambou?
Dur, très dur. Alors pour moi, c'était un choc incroyable. Vous savez, par exemple, chez nous, on vous voit. Hein, donc, la distance entre le prof et l'étudiant, il y a quand même une certaine distance.
Il y a une barrière.
Mais alors là, j'étais très surpris de voir en classe, quelqu'un au fond de la classe qui dit Jean, est-ce que tu peux alors en parlant au professeur quoi. Alors là vraiment j'étais ça m'a
OK. Ouais. Est-ce que ça me froisse
ça m'a ébranlé un peu.
Est-ce que ça me froisse un peu si un étudiant vous appelle Roger?
Non, au contraire, bon enfin je me suis habitué hein. Donc je trouve que c'est une façon de faire hein qui est quand même bien.
C'est
en fait, d'ailleurs, je trouve que bon, moi, j'étais récemment en France pour justement un séjour d'un mois là à l'université d'Artois, et je trouve qu'effectivement, la distance qui est créée entre les profs et les étudiants par ce vouvoiement très distant, c'est pas bien quoi. Ça, je pense que quelque part, bon, maintenant, il faut faire attention hein, entre le tutoiement et le respect. Ça, oui, il y a deux choses oui, hein, quand sûr. Même. Oui. Bon, alors, donc, que quelqu'un me dise tu, ça me dérange pas. Pas mon prénom, ça me dérange pas. Mais en autant que le respect reste là. Quoi.
Ça, ça fait peut-être un lien avec notre façon d'être international d'avant, plus proche dans l'humanité. Je
dernière question. Je me rappellerai toujours de Cédric Chauve qui est arrivé en salle de cours en gogoun puis en Bermuda. Pour lui, c'est un Français, mais habituellement, on s'attend à ce que le professeur français ait chemise cravate.
Absolument. Ouais.
Mais pour ce qui est du professeur Philippe Gabrini, je ne l'appellerai jamais Philippe.
Il a sorti. Ça doit être quelqu'un qui a besoin de plus de respect que ce que la moyenne québécoise est capable de démontrer de par son verbal.
Il impose quand même le respect, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Moi, je l'ai eu comme professeur. Et puis, c'est quelqu'un qui il parle cinq langues. Dort genre 3-4 heures par nuit, il a fondé des compagnies, il écrivait des compilateurs.
Finalement, tu l'appelles monsieur.
C'est monsieur Gabriel.
OK.
Incroyable!
Oui.
Superbe.
J'ai vu tantôt que Pascal, tu regardais Je changerais pas ma peau avec personne. La troupe Imagination qui nous fait une pièce de théâtre fin 70 pour devenir des meilleurs êtres humains. J'invite tout le monde à venir l'écouter chez moi. 678-2906. Vous pouvez appeler tout le monde. Là, c'est très mauvais.
Tu fournis-tu les chips?
Ah, est-ce que je peux faire ça?
Moi, bah,
ouais. Ok, je peux faire
juste
ça.
Juste pour moi.
Ah, ben ok. Juste pour les Pascal de ce monde. Féminine, bien sûr.
Et voilà.
Ah, yes. Fait que là, on va écouter Taking Care of Business, une toune totalement. Est-ce qu'on dit bonjour à Monsieur Nkambou?
Ben, est-ce qu'il fallait pas mettre une toune camerounaise
avant le départ de Monsieur? Parlez-moi-en de Roger.
Richard Bonnat.
Richard Bonnat. Parlez-en un petit peu, c'est vrai, je l'ai placé d'ailleurs.
Ah ouais non c'est un chanteur camerounais très très connu à travers le monde hein. Je crois que
il a évolué à l'étranger.
Ah oui, je sais pas s'il a déjà participé au festival de jazz de Montréal, mais
j'ai déjà entendu
que
je serais pas surpris.
Et ça serait pas long hein, qu'il participe à cela parce que vraiment il fait quelque chose de très
très beau.
On
l'adore vraiment beaucoup à l'étranger. Parce qu'au Cameroun en fait.
Ah ben c'est
ce qui est étonnant.
Est-ce que c'est le cas aussi pour Mamadou et Myriam?
Mamadou et Myriam?
Ouais, ils sont plus amis à l'étranger.
Bon ben je vous laisse parler musique là, je vais partir la toune parce que on n'a plus de temps.
Tu l'as trouvé là?
Ouais ouais.
Parfait.
On l'avait trouvé tantôt.
Play.
On vous revient à 70%, l'alternative urbaine.
Pone matomba, de ponani ne balè. Lembole wase, poli matopoto mounia. Ne pone matomba, de ponani ne balè. Lembole wase, poli makwala to mounia. E bolampindo ne pavada ni ma E bolivigno lo pangi vi son manda ma su to malati E bolampindo ne pavada ni ma E bolivigno lo pangi vi son manda ma su to malati Tata nu ya pondeno Tata nu pe ya pondeno Tata nu ya pondena Tata nu pe ya pondena Aluku ya senga na moinde munate Denge na la pende babinyo siti balanyo Aluku ya senga na moinde munate Denge na la pende babinyo siti balanyo Matomba,
Et voilà, sur fond de Richard Bonnat, j'ai baissé le volume un petit peu de la musique pour dire bonjour à M. Nkambou, qui est très sympathique d'être venu passer avec nous.
Ça m'a fait plaisir. Hein?
Bon, merci. Ben c'est excellent. Merci d'être passé. On a parlé d'intelligence artificielle, bien sûr. N'oubliez pas de revoir le début s'il y a des mots que vous n'avez pas compris. Il y a des dictionnaires qui existent.
Très bien.
Si on accepte les questions.
Oui, merci. Bonne continuation dans vos projets, Lucas.
Merci beaucoup.
Bonne
chance. Enfin, bonne chance pour votre émission aussi. Hein. Je trouve que c'est vraiment une bonne émission.
Vous faites partie intégrante de l'éminence grise de l'UQAM.
Oh,
c'est
bon.
Pour ça que des gens choisissent l'UQAM.
Voilà.
Merci, monsieur.
En tout cas, merci beaucoup.
Ben oui, vous reviendrez nous voir. Là.
Oui.
Vous parler de cyborg indestructible qui amène la.
D'accord. Au revoir.
Merci.
Aluku ya singa na moini munate Nenge na la pende kwa minyo Tibala Sele sombari upangise Tinala lomba Tibole pemo masuma Nyola mabola mabo Gambi esi masese Komo tombosa Nasengi pona mbiye pai Awatika mdiyo Sere somebody pandise dinala loba di bone pemo masomba yo la mabola mabo gambi esi masese tomo tombusa na singi pona mubi e panya batika ndio.
Le plus vilain ?
Oui, celui qui jouera le plus beau tour aux grandes personnes sera déclaré gagnant et il aura le titre de grand champion et deviendra notre chef à tous.
D'accord. Vous allez voir ce que vous allez voir.
Commençons l'opération bêtise.
Yeah !
Ça va, chef ? Le crémier a rappelé pendant votre sommeil, il vient plus, il est naze.
Quoi ? Comment ça, il est naze ?
Il est sorti tard hier et il a dit qu'il tuerait un autre jour.
Il est naze et c'est pour ça qu'il nous plante. Non, non, mais je rêve, là.
Je rêve ?
Non. Ah. Non, 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 je suis pas d'accord. Attends, s'il est naze aujourd'hui, demain, ça va être autre chose. Et puis, après-demain, ça va être...
Autre chose ?
Ouais, par exemple. Et puis, après, ça va être...
Autre chose ?
Non, 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 pas jusqu'à là. Non, 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 moi, je suis pas d'accord, hein.
Oh, pourquoi tu m'appelles toujours comme ça ?
Bien, c'est que... C'est ton nom, c'est juste.
C'est mon nom d'esclave, bonhomme. Je te l'ai dit 50 fois, je pense.
Ok. Be rad.
Voilà.
Quel est ton but, Be rad ? Qu'est-ce que t'attends de la vie ?
Je vais être le plus grand rappeur de tous les temps. Tu vois, Doc ? J'ai tout chose à dire. Et je veux que le monde entier les écoute. Je suis prosodigiste. Je peux rapper à ou n'importe quoi. Psy, psy, t'as bien des yeux.
Wouah, ça va faire les extraits audio. Je vais peut-être réussir à arriver aux choses que j'ai enregistrées du Phoenix d'or pour les extraits douteux de la semaine, parce que j'en ai fait beaucoup d'extraits ces temps-ci. Là, pour l'instant, je vais parler d'un jeu vidéo. Je vais ouvrir les micros de mes collègues, là, s'ils veulent dire bonjour, parce que notre studio a subi une cure d'amaigrissement. On est rendu avec Michel Aurélien, Pascal et Samon, bien sûr, et puis moi.
Faut pas t'oublier, toi.
Non, 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 non. Ça irait mal, personne à la console. Ça irait mal aussi, vous pourriez pas m'entendre parler de Resident Evil 4.
Oh. Parle-nous de ça, Tom, qu'est-ce qui se passe là-dedans?
Ben, ce qui se passe là-dedans, c'est que Capcom, qui est une compagnie de jeux vidéo qui date des jadis naguères, a décidé finalement, après une série de jeux vidéo très, très, très linéaires et longs et gluants, visqueux, là je parle des Resident Evil, tous ceux qui sont venus avant, ben ils ont décidé d'en faire un différent finalement. Là, par différents, j'entends que la caméra est derrière le personnage. Le plus gros challenge du jeu n'est pas de savoir quel item il faut traîner avec soi. C'est maintenant un excellent jeu. C'est un jeu que, avant, l'ambiance c'était le fun parce que quand même les décors étaient beaux et tout et tout. Mais maintenant, Resident Evil 4, qui fait suite à tous les nombreux Resident Evil qu'il y a eu avant, qui étaient tous visqueux, gluants et pareils. Ben, Resident Evil 4, c'est excellent. C'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer. Le plaisir de dégommer un zombie avec un 12 à bout portant en lui tirant en pleine tête, là. Ah! Ah, faut l'essayer, là. Et puis, tu peux lui péter les rotules aussi. Il y a peut-être pas assez d'armes de lame, là. Lame, je parle de chainsaw ou une espèce de blender géant que tu pourrais pointer vers les méchants.
Puis tu dis que c'est moins gluant.
Non, mais là, c'est métaphorique, tu sais, gluant, okay. Dans le sens que là, le jeu avance, tu passes pas ton temps à dire « Ah, j'ai oublié, c'était la clé mauve qu'il fallait que j'amène, pas la noire. » Fait que là, faut que tu retournes au début du tableau où t'avais laissé la clé noire pour ramener la clé mauve. En tout cas, c'est... Non, c'est ça, mais lui, il est bon. Donc, c'est à peu près ça. Oui, je le conseille. Resident Evil 4, en ma qualité d'amateur de jeux vidéo et de gars qui joue en s'apprécie. Le challenge est parfait. Il y a plein de choses à réessayer. En plus, des fois, là, on voit les bobettes, la fille du président.
Voilà. Oh, ça, c'est le fun.
C'est ce que j'attendais.
Pervers.
Bien intéressé.
Là, c'est intéressant.
Mais essaye pas, mon gars, elle est pas faite pour toi.
Oh.
C'est la fille du président américain. Elle s'est faite kidnapper, c'est personnel. On doit dépêcher Leon sur les... En tout cas, ça fait suite à toute l'histoire, la trame, l'histoire... Ouais, je vais finir une phrase. Ça fait suite à toute l'histoire des Resident Evil. On est 6 ans dans le futur et puis Umbrella Corporation a tombé. Et puis là, c'est un culte religieux qui devient blablabla. Fait que Simon, tu nous fais une petite nouvelle courte avant qu'on aille écouter une toune.
Ah oui, absolument. L'acteur américain Tom Cruise et sa fiancée Katie Holmes n'ont toujours pas montré leur fillette de 4 mois et demi.
Ah, toujours?
Oui, toujours pas, en public. Mais leurs fans peuvent découvrir à New York une sculpture du premier caca de l'enfant.
Wow!
En effet, cette sculpture en bronze signée de l'artiste Daniel Edwards est exposée depuis mercredi à la galerie Kapla Kesting de Brooklyn et sera vendue aux enchères sur eBay au bénéfice d'une œuvre de charité pour la santé des enfants. Daniel Edwards s'était déjà fait remarquer cette année en exposant dans la même galerie une sculpture de la pop star Britney Spears accouchant à 4 pattes sur un tapis en peau d'ours. Suri, née en avril dernier, est le premier enfant pour Katie Holmes et la star des Missions Impossibles, qui a 2 enfants adoptés avec son ex-femme, l'actrice australienne Nicole Kidman.
Faudrait que tu m'expliques ça. Qu'est-ce qu'il y a de super génial à avoir un caca d'un nouveau-né?
Ah, les artistes, hein. Moi, je me rappelle, à Rouen, j'étudiais l'art visuel et puis... La personne qui a eu la meilleure note dans mon cours de création visuelle une année, c'est quelqu'un qui avait écrit le mot art, A-R-T, et puis le A était transparent et il avait fait son caca du matin dedans. C'était la plus haute note de la classe, c'était la meilleure œuvre qui avait été faite cette année-là.
C'est jamais
vous
vu.
Vous êtes bien poche. Pour ça gagne, vous êtes vraiment
ouais, on était pas de gamme.
Vraiment poche.
Fait que là, je vais faire écouter une toune à vous autres, là, à toute la gang. Là. C'est ma toune douloureuse aujourd'hui, ça s'appelle Angélique. On l'a choisi tantôt en jouant à Magic, ça va faire très mal.
Ah ouais, c'est vraiment pas bon.
On parlait de gluant, on parlait de visqueux, on parlait de tout ça là, dans le désordre. Là.
La
on parlait d'herpès aussi.
Après ça, je te reviens avec le comic de la semaine.
C'est quoi ça? C'est pas ça, Pantin? Je l'ai-tu mis à l'envers?
Tony.
Ah, ça arrive. Là.
Tu fais pas bien professionnel.
Non, ça c'est sûr, mais je vais rechecker à la place. Là. Pendant ce temps-là, on peut parler de la vie, de tout et de rien. I love to love.
Ben, check ça, Tommy. Je vais vous parler. C'est une musique de circonstance. Parce que je vais vous parler du comic de la semaine. Cette semaine, c'est une dame qui s'appelle Ruth Regina. Ruth, qui s'écrit R-U-T-H, Regina comme la ville, wigs.com. Alors, c'est ça. Vous parlez de son site web, parce que tout ce que je vais vous dire, c'est très, très, très vrai. Le www.ruthreginawigs.com.
Wigs, c'est quoi Wigs?
Et
comment s'écrit?
Wigs, c'est perruque. W-I-G-S. Okay. Alors, Ruth Regina, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tient une boutique pour chiens, ou enfin, plutôt pour la tête des chiens. Elle, c'est une ex-perruquière pour les stars du showbiz américain. Elle fait maintenant des perruques pour le plus grand plaisir des créatures canines. Elle fait des mèches, des frisous, extensions, teintes et stylisations. Elle répond à tous les besoins pour les chiens en matière de perruques. Alors, Ruth était autrefois en charge des candidates pour Miss Univers de 59 à 72. Alors, vous voyez un peu de quel monde elle vient, là. Son job consistait à faire en sorte que quelqu'un qui est plein de make-up d'en face n'a pas l'air de quelqu'un qui a plein de make-up d'en face.
Pas facile.
L'air naturel.
Non. Ouais, c'est ça. Et puis, elle, Ruth, ce qu'elle fait, c'est qu'elle offre plusieurs produits génériques pour les chiens. Un des premiers produits, c'est le Yappy Hour, qui est en fait une cascade de frisou qui peut venir soit en cheveux synthétiques ou encore en vrais cheveux d'humain, teint ou non. Si c'est teint, c'est en n'importe quelle couleur. Ça inclut même les couleurs pastel. Elle dit que ce produit-là est excellent pour les chiens, des chiens qui sont hairless, tu sais, qui ont pas de poils chevelus. Parce que bon, et puis qu'il y a une ouverture pour les oreilles puis un petit ruban élastique qui fait que tout ça, ça tient super bien en place. Alors pour chiens qui ont besoin de perruques, également le Peak à bas Wow, qui lui est un produit qui offre un surplomb de cheveux sur le visage du chien, ce qui lui donne un look glamour, un look rockstar, un peu dans le style de Veronica Lake, si on se rappelle, c'est une vedette des années 40. Alors c'est ça, elle dit qu'elle conseille ce produit-là à tous les chiens qui ont une gueule sexy.
Oh, voilà. C'est quoi un chien qui a une gueule sexy?
Faut demander à Ruth. Tu peux aller sur le site web, il y a des photos de tout ça. Alors, Madame Ruth a fait sa première perruque il y a quelques années pour le basset d'une nièce pour aller avec son suit qu'elle avait fait pour Pâques. Oh. Son chien, il y avait un suit pour Pâques.
Il était transformé en lapin, son chien?
Je le sais pas. Mais en tout cas. Alors, Ruth a dit que ce qu'on appelle les mummies of doggies, tu sais, les mamans qui se promènent avec la caniche, qui traitent leurs chiens, là, pareil comme des enfants, sinon mieux, ben, qu'ils vont être ben contentes de payer jusqu'à plusieurs centaines de dollars pour un tel produit.
Bon. Certains de ces produits ils vont avoir le droit.
Oui, certains de ces produits étant faits sur mesure, selon la forme de la boîte crânienne de ces chiens-là. Et sa voisine, Eva Huerta, qui est elle propriétaire d'une boutique, est tout à fait d'accord. Elle a une boutique qui s'appelle Teacup Couture. Qui fournit entre autres des accessoires pour que les petites madames puissent regaillardir leurs chiens quand ils vont prendre le thé. Fait qu'ils ont des lunettes fumées, des chapeaux, des jeans, des costumes, tout ça pour les chiens, pour les habiller, pour qu'ils puissent aller prendre le thé. Alors, elle est très, très, très intéressée à acheter de ces perruques-là pour vendre ça à ses clients. Puis
ça fait beaucoup suite à ce que tu avais parlé de la semaine passée.
Tout à fait. Alors,
oui, j'avoue.
Alors, ben c'est ça, Ruth Regina.
Bravo.
Ruth Regina,
comic.com.
C'est notre comic de la semaine.
Ruth Regina, applaudis, Pascal.
Elle fait bien plus d'argent que moi.
Non, j'applaudis pas ça, moi.
Bon, ben, j'ai retrouvé ma toune, en tout cas, pendant que Pascal boude, là. On écoute Angélique. J'ai dit visqueux et gluant tantôt. Vous me direz ce que vous en pensez. Ouf. Là, ça, c'est un extrait de Monkey Tennessee 2. C'est pour ça que vous n'avez pas eu le privilège d'écouter Angélique ou d'un bout à l'autre. Est-ce que c'était assez gluant à votre goût, hein, messieurs dames? Tu peux parler, Michel. Okay, c'est bon, ils sont pris dans la glu.
Tammy, tu sais qu'on est en deuil en ce moment.
Ah ben, c'est
ça. Vous connaissez Steve Irwin?
Non, pas du tout.
Non? Vous connaissez pas? Le, comment on l'appelle? Le Crocodile Hunter?
Oui!
Ben, oui. Il est décédé.
Oh.
Ouais.
Oui. Lui qui était blond, là,
pourquoi,
avec les chapeaux
bizarres? Pourquoi, il s'est fait
bizarre?
Crocodile hunter?
Non, 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 non. Il est mort, s'est fait tuer par une raie. S'est fait piquer sur un de tout le zoo où c'est qu'il travaille, c'est un des animaux les moins dangereux. Pas du tout dangereux, cet animal-là, ben enfin.
Une raie qui va dans l'eau?
Elle était tannée de le voir partout, peut-être?
Je sais pas, en tout cas, c'est... Ben, il est décédé, il s'est fait piquer, puis...
Ah, oh, c'est triste.
Ouais, hein? C'est une star australienne. L'Australie est un pays qui est de l'autre côté de la planète.
Ce gars-là, quand il était enfant, là, son passe-temps favori, c'était d'aller pêcher des poissons puis attraper des rongeurs pour nourrir les animaux domestiques qu'il avait chez lui, c'est-à-dire un python de 3,6 mètres de long et quelques crocodiles.
C'est pas vrai.
Sa mère, elle devait aimer ça?
Oui, oui, t'es très à l'aise. En fait, il a été entraîné par son père à attraper durant la nuit des crocodiles à main nue.
À main nue.
Oui, puis ça, c'est cette méthode-là qui l'a rendu célèbre à la télévision. Là.
Merci, papa. Crocodile,
comment? Des gros, des petits, des...
Des crocodiles? Ah, oh, il a fait pas mal tout.
Oui, oui, il avait pas de trouble. Il avait même commencé à dompter son flot, puis ça, ça l'avait pas aidé.
Oui, en effet, il l'a mis dans la gueule, le crocodile, je crois, puis ça, ben, ça a fait
il
du scandale.
Amené, là, ouais, il l'avait comme approché d'un crocodile.
Oui.
Il n'attrapait pas les serpents aussi?
Il vivait avec.
Oui, c'est ça, ouais, il vivait avec. Il dormait avec le serpent roulé au pied du lit.
Il y a du monde étrange, hein?
Oui, mais j'en ai un autre étrange ici. Écoute, c'est un faux policier qui a été arrêté après avoir tenté d'interpeller un vrai policier. Écoutez, ben, ça, c'est un jeune Américain qui se faisait passer pour un policier. C'est ça qui est arrêté en Californie après avoir tenté d'interpeller un automobiliste, qui s'est révélé être un membre des forces de l'ordre en civil. C'est un policier qui conduisait lundi passé, sa voiture personnelle sur une autoroute, c'est au nord de Los Angeles. Quand, à un moment donné, l'autre comique est arrivé par en arrière avec sa voiture équipée de gyrophares, t'sais, à l'intérieur, comme les undercovers, si on veut. Fait que c'est ça, lui, il pensait qu'il avait affaire à un collègue, fait qu'il s'est parké, puis il a laissé l'autre sortir. Sauf que l'occupant de la voiture, quand il est descendu, il a montré sa patch dorée au policier, puis il l'a montré rapidement. Fait que le policier n'est pas du tout impressionné. Il a demandé « Peux-tu m'en remontrer, s'il te plaît? » T'sais, un peu plus lentement. Fait que c'est là que l'autre il a pris la poudre d'escampette.
Non.
Fait que le policier, dans le char, ben, il a noté le numéro de plaque. Et puis, ils ont réussi par l'arrêter. C'est un certain Shabod Hosseini, 22 ans.
Mais finalement, il voulait quoi? Pourquoi tu faisais ça?
Il voulait juste le monde.
Impressionné, qui a été arrêté mardi matin, le lendemain, à son domicile. Et selon l'article 538 du Code pénal californien, il risque un an de prison et une amende de 2 000 $.
Oh mon Dieu!
Non.
Rien que pour avoir voulu faire le comique.
Oui. Et voilà. Hey, moi, j'ai trouvé les extraits ainsi que le caca de la semaine, ce qui va nous amener peut-être à la fin de l'émission tranquillement. Voyez ici, j'ai l'original de Opération Phoenix d'Or. Là, je vous lis l'espèce de roman d'aventure qui est en arrière de cette bouse-là, avec Lorraine Avedon et Jalal Méry. Jalal Méry, qui est le petit frère de Richard Méry. Richard Pépin et... Non, c'était pas Jalal. En tout cas, c'est un autre J. Jerry Méry. On s'en fout, là, une équipe de producteurs pas mal. Oui, c'est ça. Bon. Fait que là, je vous lis le résumé de l'aventure qui est en arrière de la cassette. C'est assez lourd. Assisez-vous bien. Lave-la. Opération Phoenix d'Or. Une relique archéologique légendaire contient la clé d'un trésor prodigieux ou d'une mort atroce. Dans ce suspense renversant, mêlant habilement une intrigue internationale captivante et des scènes d'arts martiaux foudroyantes. Là, j'invente aucun adverbe ni aucun adjectif, c'est tout là. Non. L'étourdissant maître d'arts martiaux Jalal Méry joue le rôle de Marc Asante, un ex-agent de la CIA faussement accusé d'avoir subtilisé le Phénix d'Or, un pendentif ancien d'une valeur inestimable. Après une évasion spectaculaire, il tente de prouver son innocence, et c'est à la force de ses poings dévastateurs qu'il se retrouve dans les ruelles funestes et exotiques de la ville de Beyrouth ravagée par la guerre. Il remonte lentement la filière meurtrière du pendentif jusqu'à une véritable montagne d'or enfouie, le mythique trésor perdu de l'Empire ottoman. Mais un tel butin ne manque pas d'ameuter les chacals de l'argent. et Asante livrent bientôt une lutte féroce au bandit international Chang et son armée d'assassins, qui compte en ses rangs le fourbe ex-partenaire d'Asante, Ivan. Avec le secours d'une cadre du corps impérial particulièrement séduisante, ouais, on s'entend, Asante doit résoudre l'énigme du pendentif et se préparer à la confrontation apocalyptique à main nue avec les sombres forces fatales qui ont déclenché l'opération Phénix d'or.
Ça a l'air assez lourd, hein?
Ah, t'as-tu vu ça, le résumé?
C'est un peu difficile.
Les combats apocalyptiques.
Michel, peux-tu me répéter un résumé de qu'est-ce qui se passe dans cette film-là?
Yeah, yeah.
À un moment donné, on ne suit plus.
Flamboyant et apocalyptique.
Moi, j'ai préféré la fin.
Parce que je ne m'étais pas concentré à 100%. Là.
Moi, c'est difficile, hein?
On va écouter les extraits parce qu'il nous reste 2 minutes d'émission. Mais on peut parler quand même.
Moi, je vais vouloir l'écouter avec toi, Tony.
Ouais, je ne sais pas si je veux le réécouter.
Asante va accompagner le trésor lui-même.
Asante, qui a eu l'idée de le demander?
Le professeur Hamid, il est persuadé qu'il est l'homme de la situation.
Oui. Je n'ai aucune confiance en ce salopard-là.
Asante a une réputation sans tache.
Avec lui, on ne sait jamais comment ça va se passer. Avec lui, les règles ne sont jamais respectées. C'est
jamais respecter les règles. Pas.
Comme au Vietnam.
Ouais, il joue selon ses
Pourquoi
règles.
Pourquoi vous ne l'avez pas tué?
Tu es qui?
Asante, imbécile. Qui d'autre? On l'a vu aujourd'hui à la course automobile.
Mais j'allais quand même pas lui tirer dans le dos.
Pauvre idiot! Asante peut tout foutre en l'air. Quand je vous donne un ordre, je veux qu'il soit exécuté à la lettre.
Je vais aller le tuer maintenant.
Non.
C'est dramatique.
Bah, il n'y a pas avec tard. Ça. Je vais aller tuer maintenant. Non, c'est
on
trop tard.
Un autre moment.
Pourquoi tu chiolais là-bas?
J'aurai ta mort! J'aurai ta mort! Oh, tire!
Là.
Allez, tire.
Yvan, ne me provoque pas. Tire, je te dis, Yvan!
C'est la confrontation apocalyptique, c'est comme ça qu'elle commence.
Tu ne sortiras pas sans un combat.
Ah ouais? C'est ce que tu veux.
Alors allons-y. Toi aussi, t'as besoin de ça.
Ah, c'est l'endroit idéal. C'est un lieu historique. Tu sens cette énergie?
Et
allez,
voilà.
Bat.
Ouais, oui. Quoi d'autre?
Comme on faisait autrefois, quand on était copains. Allez, bats-toi!
Comme au bon vieux temps. Et voilà, c'est à la fin des extraits. Pas beaucoup, cependant, cette semaine encore non plus, parce que c'est une marde, surtout audiovisuelle. Vous avez écouté 70% d'aujourd'hui, la journée qu'on est. Une émission un petit peu écourtée, parce que c'est une journée fériée, puis la porte était barrée, hein, Simon?
Ouais, c'est un peu plate, mais bon nous sommes au rendez-vous bénévolement à part de ça.
Ben
Pascal,
ouais.
Aurélien, Michel, est-ce que vous revenez la semaine prochaine?
Ben, toujours. C'est sûr.
Oh, yes!
On des attitudes.
Vous nous préparez une petite chronique?
Ben, moi, c'est pas sûr que je vais venir ici, parce que j'aurai cours.
Ah, oh, c'est dur.
Moi, je m'en ai pas mis le lundi.
J'ai prévu. Mais en fait, ça va devenir le vendredi bientôt. On vous tient au courant, les amateurs de 70%, mais on va transférer le vendredi. C'est plus winner.
OK.
C'est vrai, hein?
De toute façon, on serait là de même.
Possible.
Bon. Fait que merci tout le monde d'avoir été là. Merci.
Ben, ça fait plaisir. Hein.
Merci à Tommy.
C'était
merci
70%,
Simon.
Excellent. Fait que je vous laisse avec des extraits.
Salut.
Merci, Pascal.
Excellent.
Ouais, mais pas mal moins vedette, fait que ça s'annule.
Ah, OK. Tu l'avais rencontré, toi, hein?
Ouais, c'était à l'époque, elle avait sorti un frisbee, un disque.
Oui, un disque.
Puis, tu sais, là, elle avait des nouvelles peignures, là, puis elle n'arrêtait pas de me parler. Mes cheveux. Je m'arrêterai à 38, à peu près.
Okay.
Mes cheveux, 38,
c'est bon.
Fait que là, je m'excuse s'il y a des gens qui ont le cœur sensible à la maison, vous êtes en train de manger quelque chose, là, mais t'es obligé de vous montrer notre reportage, l'entrevue avec moi et Nathalie Simard. On regarde ça.
De quoi ton nom?
Daniel Dechem, Mario Trudel.
Non, de fille.
Claude Dubois?
Non,
non, pas de Led Zeppelin, pas de
Jean-Marie Moreau.
Non, 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 non. Hey, comment t'appelles, là?
Peut-être Nathalie Simard.
C'est ça! All right! Watch out! Nathalie, on a fait enregistrer un disque. Une odds, un pâté, un potard.